Bonjour et bienvenue à ce dernier détour estival de la semaine, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi bien évidemment. Alors on démarre l'émission avec quelques sujets que j'ai choisis pour vous. Oui bien sûr, et puis en deuxième partie d'émission, on aura Cynthia Sardou qui va nous parler de son livre, le film qui retrace en fonction de son expérience à Hollywood. Voilà, donc restez à l'écoute et puis bon ben voilà, vous allez profiter de ces bons sujets et de notre invité aussi.
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love.
Qui devait passer en deuxième partie d'émission est déjà là. On va partir tout de suite avec elle pour nous parler de son livre, le film qui est sorti. J'étais en train de la présenter et mon complice Maurice Bolduc me dit « Ah, l'invité est déjà là, on la prend tout de suite !» Au lieu de la faire attendre une demi-heure, on va aller avec elle, elle est déjà là. Bonjour Cynthia Sardou.
Bonjour, merci de me recevoir.
Moi je vous dis merci d'avoir eu le temps de venir nous voir et puis bon d'abord merci pour la copie du livre.
Je vous en prie.
Voilà, un livre qui me permet de découvrir d'ailleurs un peu l'intérieur d'Hollywood, un milieu que je ne connais pas du tout. Pour ceux qui ne savent pas, je vais dire rapidement là, ce qui est en arrière. Là, c'est, elle s'est inspirée de son expérience personnelle à Hollywood. Hein. Cynthia Sardou propose le roman, le film. Voilà, une fiction palpitante avec un regard éclairé sur le monde du cinéma. Voilà, pour les cinéphiles, une histoire actuelle à laquelle s'identifieront de nombreuses femmes. Pourquoi les femmes seulement?
Oui, c'est vrai, c'est mon éditeur qui a écrit ça surtout, peut-être parce que Louise est une femme, une actrice.
L'héroïne du film.
Et l'héroïne du livre, du de livre. Cette histoire. Mmh. Et j'ai voulu mettre en avant un petit peu, il y a beaucoup de choses dans ce livre en fait, il y a beaucoup de, il y a un peu de... Il y a toutes les émotions.
Il y a toutes les émotions là-dedans.
Ouais, ouais.
Je ne l'ai pas encore fini, mais le peu que moi j'ai lu là, vraiment. De toute façon, je vais conseiller aux gens d'ailleurs d'aller de courir à la librairie pour aller chercher ce livre-là. Et puis, donc Louise, comme vous le dites, Godwin, qui est une jeune actrice douée de 23 ans, qui décroche sa première nomination aux Oscars américains pour le film « Secret dans la nuit ». Une nomination qui lui tient beaucoup à cœur, non seulement parce que c'est l'aboutissement de sa passion et de son travail de plusieurs années. Oui.
Oui.
Mais aussi à cause du rôle particulier qu'elle joue dans le film. Allez, on y va avec ça?
Oui, alors j'ai voulu... Je commence par la scène, une scène de meurtre.
Oui.
Qui pourrait laisser à dérision le lecteur, parce que je ne dirai pas la fin du prologue. Mais c'est un peu sombre. J'ai voulu écrire un peu... je me suis inspirée d'Hitchcock, des sombres, de James Ellroy que j'ai lu beaucoup à une époque. Je me suis inspirée du cinéma, de mon expérience à Hollywood aussi.
Oui, oui.
Parce qu'il
oui,
y a un côté oui. sauvage à Hollywood et à la fois très... Ça peut paraître superficiel, mais ça peut être dangereux parfois aussi si on ne prend pas garde. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses là-bas et j'ai voulu retranscrire à travers elle certains pans de la réalité et à la fois ses bonheurs aussi, parce qu'être nominée aux Oscars, c'est pas rien. Et puis, il y a toute une... Il y a aussi cet agent qui s'occupe d'elle, qui est assez bizarre, strange.
Très bizarre.
Très bizarre, on ne sait pas trop qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas... C'est très bizarre, et puis bon, au fur et à mesure, on découvre tout doucement qui il est en définitive.
C'est ça.
Et on sait seulement à la fin qui il est vraiment.
Qui il est vraiment. Mmh. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Cynthia Sardou, qui a travaillé comme journaliste en France chez Itélite, bon, qui est devenue maintenant CNews.
Plus, oui.
Oui, c'est ça, c'est avant d'être correspondante en Californie pour les... événements cinématographiques tels que les Oscars ou les Golden Globes en 2011, badaboum, Canada.
Le oui,
départ.
Voilà.
Voilà. Et voilà. Elle aime,
Québec surtout.
Québec.
Parce que
voilà.
Je vis ici.
Canada.
Je vis ici.
Au Québec, voilà. Et puis, donc je peux dire que c'est une collègue hein, parce qu'elle anime là son émission à la radio Mieux-être.
Oui, j'ai adoré cette expérience avec Jean Rivet. J'ai trouvé ça formidable.
Oui.
Et j'avais une heure d'antenne pour moi toute seule. C'était fabuleux. J'invitais un invité.
Belle expérience, oui.
Un artiste ou quelqu'un de la vie
culturelle. J'ai vu l'entrevue que vous avez eue avec Denis Lévesque, des TVA.
Oui, Denis Lévesque, Mario Pelchak, tout ça. Donc, non, mais pour revenir au livre, oui, j'ai voulu... je me suis inspirée pas mal de ce que des rencontres que j'ai faites et de ce que j'ai vu, parce que j'ai été témoin de certaines choses.
Oui.
Puis j'ai voulu le retranscrire à ma façon,
à votre façon,
dans cette histoire.
Elle est
mais c'est pur fictif, hein, je précise, c'est fiction.
C'est du roman.
C'est du roman.
C'est du roman.
Voilà. C'est pas du tout.
S'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, tant mieux pour eux. On va pas dire tant pis, on dit tant mieux pour eux.
Oui, tout à fait. Mais j'aime assez le père de Louise et je dirais la famille de Louise qui est très. Toujours très attachant, très solidaire.
Ah oui,
ils prennent soin de leur fille. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et c'est ce qui se passe dans le cadre de la communauté juive, dans les relations familiales principalement.
Et d'ailleurs, comme on vous l'a dit au téléphone, c'était votre manière à vous de faire un clin d'œil à la communauté juive dans le milieu cinématographique d'Hollywood.
Tout à fait, ils sont nombreux à Hollywood. Et puis malheureusement, j'ai perdu un ami de la Covid qui était de la communauté juive, qui nous a quittés il y a tout juste un an. Donc,
que la terre lui soit légère.
Voilà. Donc j'ai voulu lui rendre hommage dans cette histoire.
Et Cynthia est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier d'ailleurs, Amour encore et toujours. Je suis allé voir la liste de ceux qui ont collaboré, celles qui ont collaboré avec vous sur ce livre.
Oui, oui. Là, collectif. Je raconte une histoire naissante d'amour au Québec, justement, qui s'appelle L'ultime seconde.
Oui.
C'est un bel ouvrage, c'est un beau collectif. Toutes les histoires d'amour, finalement, éveillent en nous une certaine importance de vie, de valeur, finalement. Et c'est ce que j'ai voulu retranscrire aussi dans le dernier roman.
Oui. Et pour écrire son roman, être inspiré de sa propre expérience à Hollywood et nous proposant une fiction palpitante, un regard éclairé sur le monde du cinéma. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore, courez à la librairie, allez-y chercher une copie de ce livre. C'est Cynthia Sardou qui va... Vous allez découvrir ce monde. Mais c'est un monde qui m'est un peu étrange. Je le trouve un peu, comme vous l'avez dit au début, un peu sauvage, un peu barbare, un peu superficiel.
Tout à fait. Tout à fait. C'est superficiel. Moi... J'y ai vécu un peu de temps et j'ai vu un petit peu comment étaient les gens, comment était le... Bon, j'ai beaucoup travaillé aussi, je me suis renseignée, j'ai fait des recherches sur toutes les femmes notamment et j'ai voulu rendre hommage à des actrices de renom, au record comme Meryl Streep ou des femmes qui ont eu des Oscars et qui ont eu des vies, qui ont changé de vie après leur Oscar. Après l'obtention du prix, elles ont changé de vie. Je peux donner des exemples. Halle Berry, qui est devenue réalisatrice, qui a été la première femme de couleur à avoir un Oscar pour un premier rôle.
Oui.
Meryl Streep, qui a eu 10 Oscars environ et une trentaine de nominations.
C'est un peu votre milieu. Hein. Quand on fait des reportages dans ce milieu, c'est vraiment... On fait une petite pause musicale.
Oui,
et
avec
puis on
grand
va
plaisir.
Continuer. Voilà, on va en musique avec Thomas Fersen et les Papillons.
Sans attendre l'acquis, je sors de ma coquille, désertant la caserne qui me gouverne pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la ville, la vie civile que nos soldes sont bus, avec en vue des bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques. Papillon chic, les papillons, les papillons. Les papillons, 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 les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes. Papillons jaunes, ou dans quelques manèges, sous les flocons de neige, angélique et mouillant. Papillons blancs, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette. En regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma, parmi d'autres poussières en avis de lumière. Les papillons, 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 les papillons. Je l'ai pas saturé le temps, sans connaître la gloire d'être un seul soir. Un as de la voltige, matador de 20 piges, un coquelicot qui bouge, papillon rouge. Moi c'est grise d'alcool que je prends mon envol dans la rue vers minuit. Papillon gris, la lune le libère et sous les réverbères, ce sont les noctambules qui déambulent. Les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons, les papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux. Papillon bleu, mais on n'écoute rien, on pense à autre chose quand ses lèvres nous causent. Papillon rose, et parfois on la suit sous son grand parapluie, mais son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain, il reste sur la main l'ombre de son parfum, tout un jardin. Elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon, griffonne et au crayon, il reste un papillon. Adieu Léon. Les papillons, 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 les papillons.
Thomas Versen, les papillons. Vous avez entendu, mon invité est toujours avec moi, Cynthia Sardou, pour parler de son livre Le Film, que je recommande beaucoup. D'ailleurs, allez-y, pour ceux qui ne l'ont pas, courez à la librairie, allez vous chercher une copie là-bas. Voilà, ok. Ou bien, adressez-vous directement à Cynthia. Cynthia Sardou, vous allez la trouver. Appelez-la, je veux une copie de votre livre. Et puis c'est tout. Alors, l'expérience personnelle de Cynthia là-bas, quand vous étiez parti pour les reportages, la couverture des événements, tout ça. Comment ça se passait? Est-ce que le rapport avec les gens, vous avez trouvé que, comme je l'ai dit, est-ce que c'était vraiment superficiel ou vous avez rencontré des gens qui étaient un peu plus
authentiques? Non, j'ai rencontré tout. J'ai rencontré des gens très authentiques, autant des gens superficiels.
Oui.
Mais les gens du milieu du cinéma ne sont pas... C'est des gens, des grands professionnels déjà.
Oui.
Puis c'est des gens qui vous accordent 10 minutes de leur temps par entrevue, pas plus. Wow. Donc c'est des gens qui sont extrêmement carrés. Mmh. Qui savent où ils vont. Bon, moi, c'est sûr que je les ai plus rencontrés. C'est plus mes collègues qui les ont rencontrés dans le domaine du travail. Moi, j'étais plus présente dans la salle aux Golden Globes. Là, j'ai pu me rendre compte et j'ai assisté à des discussions assez intéressantes.
Oui.
Et là, j'ai remarqué l'authenticité des grands professionnels du film, ce qui pouvait les animer sur les scénarios à venir, etc.
Oui.
Donc j'ai rencontré aussi des gens dans des parties, dans des soirées privées, etc. Puis c'est là que je me suis rendu compte que finalement le milieu du cinéma était pas si superficiel que ça et que c'était beaucoup plus compliqué qu'on pouvait l'imaginer.
Oui, oui.
Ces gens-là, on accorde peu de temps à des journalistes tels que nous. Je me souviens qu'à l'époque, moi j'étais en plein après attentat du 11 septembre à New York.
Oui.
Et ça avait eu des effets aussi en Californie. Puisqu'à l'époque, on n'était pas certain que la soirée se produise. Il y avait eu 5000 forces de l'ordre qui étaient à cette soirée, à la soirée des Oscars. La plupart des stars étaient vêtues de noir pour accompagner et être solidaires vis-à-vis des militaires qui étaient en Irak à ce moment-là.
Oui.
Et donc, c'était très, 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 très strict. Extrêmement difficile comme situation. Il y avait même des manifestants qui avaient dit, qui avaient crié « Shame on you, Mr. Bush ».
Oui,
et,
je me rappelle.
Honte à vous, Monsieur Bush.
Les images qu'on a vues, oui.
Et j'ai assisté à ça, en fait. Donc, si vous voulez, on était plus ou moins en crise et en guerre vis-à-vis de l'Irak et il y avait des ripostes, etc., suite aux attentats du 11 septembre.
Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a des gens, à Hollywood, les gens sont toujours à la recherche de la gloire ?
Toujours.
To be famous.
Toujours. Toujours. C'est tout, le rêve américain est toujours présent. La plupart des bartenders sont très. Sont des acteurs dans l'âme, même quand ils jouent leur propre rôle dans un restaurant, comme waitress,
oui.
comme
en tant que serveur dans un bar.
En tant que serveur, voilà, merci.
Oui, en tant que serveur dans un bar.
Et dans un bar ou comme barman, ou voilà, ils jouent leur rôle, mais le rêve américain est toujours présent et pour eux. Le rêve américain, c'est surtout être connu et riche.
Oui.
Voilà, ça fait partie, je dirais, de leurs espoirs. Mais par contre,
le rêve
américain, c'est ça, c'est de réussir dans la vie et d'atteindre un certain niveau de vie. Mmh. Ça, pour eux, c'est très important. Donc, je dirais que le cinéma, les Oscars, les Golden Globes, ces soirées-là, fascinent les gens et font rêver les gens. Mmh. Donc, j'ai voulu faire rêver à mon tour dans ce livre.
Dans ce livre.
En expliquant les coulisses un petit peu des Oscars.
C'est ça.
Comment ça se passe.
Le peu que j'ai lu déjà, ça m'a beaucoup... J'ai dit, moi, c'est un milieu que je connais pas du tout. Je vois les Oscars, tout ça, la télé, tout ça. Mais ce qui est là-bas dans les coulisses, là, à l'extérieur, on voit pas tout ça. Hein.
On voit pas tout ça.
Même s'il y a des journalistes comme vous et d'autres qui passent de temps en temps pour nous faire des petits reportages... On s'est dit, mais il n'y a plus que ça qu'on ne voit pas.
Oui, et voilà. Puis en même temps, c'est romancé.
Oui.
Tout n'est pas... je ne dis pas tout.
Non.
Parce que là,
on a la one brick de 1000 pages.
Oui, puis il y a des choses que je n'ai pas le droit. Je ne veux pas trop dire.
C'est vrai.
Par respect des uns et des autres. Moi, j'ai aucune révélation dans ce livre-là, aucune, mais...
C'est un roman.
C'est un roman, voilà. Je me suis amusée, ça m'a fait plaisir.
On revient rapidement à ce clin d'œil. Pourquoi vous avez choisi de faire ce petit clin d'œil à la communauté juive dans le milieu?
Parce que, déjà, à Hollywood, ils sont omniprésents. Mm-hmm. C'est des gens qui sont là depuis... Vous voyez, par exemple, je prends une famille au hasard, la famille Douglas.
Oui.
Ils sont là depuis la première vague, depuis les années 30. La première vague d'immigration, les années 30, juste avant l'Holocauste.
Avant 39-45.
Avant Hitler au pouvoir. Donc, c'est des gens qui ont de l'Europe de l'Est qui ont migré en ces temps. Et Kirk Douglas, qui n'est plus parmi nous, a migré en même temps, dans cette période-là. Et c'est des gens qui ont évolué à Hollywood. De maintenant, c'est Michael Douglas, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui deviennent tous acteurs et qui ont eu, qui sont allés rejoindre la Terre Promise, comme de nombreux Américains ou Juifs de communautés juives. Voilà, c'est.
Oui, allez-y. Non, je disais, normalement, je devais finir avec vous, mais on étire encore quelques minutes, là, pour que vous auriez
quelque
chose de rien, voilà, pour qu'on termine comme ça, juste à la fin de la première émission, partie de l'émission avec vous. Alors, est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont déjà lu ce livre et qui vous ont dit, waouh, ok, vous m'avez fait découvrir des choses? Moi, personnellement, depuis que j'ai lu là, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout que j'ai découvert, même si c'est un roman.
Ah oui, quoi, dites-moi.
L'héroïne même me fascine, Louise.
Elle est parfaite, quasiment.
Oui.
Elle est quasiment parfaite et elle est à la fois vulnérable, fragile, puis à la fois elle est physiquement parfaite. C'est exactement ce qu'on veut à Hollywood, en fait. C'est l'idéal au féminin, je dirais, jeune, brillante, qui sait chanter, danser sur commande, jouer la comédie sur commande, qui a commencé très jeune, qui est une enfant star et qui, à la fois, a eu une certaine éducation bien... Elle a étudié, elle a fait ce qu'il faut pour en arriver là.
Hein. Oui.
Donc,
Est-ce que...
Elle a toujours des parents qui l'ont encouragée. dans tout ce qu'elle faisait. C'était ses premiers fans et à la fois ses premiers spectateurs et à la fois ses confidents, quoi. Mmh, mmh. Donc j'ai voulu donner l'image d'une famille idéale. Puis évidemment, il faut qu'il y ait une ombre sur le tableau, et l'ombre sur le tableau, c'est cet agent.
Cet agent.
Il s'appelle Kevin McGill.
Oui, est-ce que votre frère Romain Sardou, qui a écrivain lui-même, qui est auteur...
Oui, il m'a encouragé lui aussi à écrire.
Est-ce qu'il a lu déjà?
Oui, il l'a lu, ça a été mon premier lecteur en fait.
Oui.
Bon, après mon éditeur, bien évidemment.
Ah ouais, bien sûr,
mais,
oui.
Mais mon frère m'a dit, c'est bien, il y a du potentiel.
Il y a du potentiel, oui.
Tu peux faire quelque chose.
Mmh, oui.
Donc, mais je l'ai vraiment écrit comme un scénario de film, quoi.
Oui. Ah oui. Moi, j'ai hâte de le terminer, mais je ne l'ai pas encore terminé, mais je sais que je le conseille. Je le conseille, je le dis en nom de là, même dans ma vie privée, je vais le conseiller à des gens. On apprend des choses sur Hollywood. En fonction de votre expérience personnelle.
C'est voilà. Exactement ce qui se passe.
Oui.
Alors, c'est sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde.
Ah non, ça ne peut pas plaire à tout le monde.
Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais en même temps, c'est ce qui se passe exactement à Hollywood. C'est comme ça que je l'ai vécu moi-même à travers des rencontres. Je me suis inspirée d'histoires que j'ai entendues et qu'on m'a racontées, mais... Moi, je rentre pas dans le décor, bien évidemment, mais je me suis inspirée de ces personnes-là et j'ai trouvé que leur histoire était intéressante et à la fois, malheureusement, très répétitive.
Très répétitive.
Notamment sur les femmes
qui
vivent des moments difficiles ou une certaine violence psychosomatique ou psychologique. C'est plus difficile à déceler qu'une violence physique.
Oui, oui. Pour la dernière minute qui nous reste, si c'était à refaire votre expérience hollywoodienne?
Non, je ne la referais pas.
Pourquoi?
Parce que je suis passée à autre chose. J'ai vécu, j'ai vu ce qu'il y avait de meilleur, en fait. J'ai vu ce qu'il y avait de meilleur là-bas, mais je n'y retournerai pas.
Merci.
J'y retournerai en vacances, mais voir des amis, mais pas y revivre.
Merci beaucoup, Cynthia
Sardou. Merci
Sardou.
À vous.
Merci, bravo.
Merci
pour ce livre. Allez, courez à la librairie. Merci, restez à l'écoute, on
vous
revient.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous aussi.
Écoutez Détour Estival avec Fulgence Blas.
think that way? Did you really think about it before you made the rules you said so? That's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them?
C'est une chanson qui a été reprise plusieurs fois d'ailleurs. Et puis voilà, c'est une version, c'est pas la version originale, c'est une version remasterisée, si je me trompe pas, mais toujours pas lui-même, hein, pas par quelqu'un d'autre. Voilà, il y a une version encore très longue, concert de 7 à 8 minutes là. On va l'écouter prochainement, pas aujourd'hui. Voilà, il y a un jeune homme qui est déjà passé ici, un garçon que j'apprécie beaucoup, Baudio. Il sera en spectacle ce soir au cabaret acoustique Nuit d'Afrique, au Balatou. Ça se passe à 21h. Hein. Le Balatou, c'est situé où? C'est au 4372 boulevard Saint-Laurent. C'est le légendaire club Balatou qui fête également. Ou si c'est les 35 ans, il y a eu les Nuits d'Afrique dernièrement. C'est dans ce cadre qu'ils ont créé ce nouveau style de spectacle qu'ils appellent le cabaret acoustique Nuit d'Afrique. Donc à partir de jeudi, vendredi et samedi, il y a des artistes. Et dimanche aussi, il y a des artistes qui font ce produit-là en acoustique, bien sûr. Voilà, pas des gros groupes avec 10 000 musiciens qui arrivent sur scène, non, c'est pas le cas. Un artiste accompagné d'un ou bien de deux autres musiciens, instrumentistes, et puis c'est parti, c'est ce qu'on appelle l'acoustique d'ailleurs, cabaret acoustique de Nuit d'Afrique. Donc, Baudio, ce Montréalais d'origine sénégalaise, va se produire là aujourd'hui à 21h. Entrée, c'est 10$, les billets se vendent à la porte, hein. Ouais. On l'aime bien, il est déjà passé sur les ondes de Canal M. Hein, on aura l'occasion de le revoir ici parce qu'il vient de sortir. Il a fait un duo avec un artiste d'origine haïtienne d'ailleurs, très beau duo, qu'on aura l'occasion d'écouter ici prochainement. Voilà, c'est pour ce soir pour ceux qui aiment sortir. Il y a cette histoire de passe sanitaire. En France, en Italie ici au Québec aussi, déjà au Canada, déjà les arnaqueurs, les fraudeurs se sont mis à faire des faux, voilà, des faux passes, des fausses passes sanitaires. Je m'attendais à ça, je savais que les gens allaient se lancer là-dedans. Voilà, c'est comme ça, ils savaient que c'est une manière pour eux de se faire de l'argent. Il y a la police italienne qui a démantelé un réseau de vente de faux passes sanitaires. Oui, ouais, c'est... Bon, je me suis dit, quand j'ai lu cet article hier, ou bien avant-hier dans le journal de Montréal, qui parlait aussi de ces genres de choses ici, chez nous, ici au Québec, j'ai dit, mais c'est mondial, effectivement. Tous les pays qui vont demander des passes sanitaires vont être confrontés à ce système-là. Cette histoire d'arnaque, de vente de faux passes sanitaires sur le web. Alors, faites très attention. Faites très, 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 très attention. Mieux vaut aller simplement se faire vacciner que d'acheter un passe sanitaire. Voilà. Alors, la police italienne a identifié 4 suspects pour l'instant, dont 2 mineurs d'ailleurs, qui proposaient la vente de ces faux documents sur les réseaux sociaux. Comme ça, ils se sont exposés eux-mêmes. Voilà, des milliers d'utilisateurs étaient enregistrés sur des plateformes populaires de communication où de faux passes sanitaires étaient proposés à la vente pour un prix compris entre 150 et 500 euros. Oui. Ici, on dit entre 150 et 500 dollars. C'est pareil chez nous ici, au Québec, ça se passe aussi. Avec une garantie absolue d'anonymat grâce au paiement. Ils se font payer en crypto-monnaie. En crypto-monnaie, la monnaie virtuelle d'ailleurs. Avec des bons d'achat pour des sites de commerce en ligne. C'est la police italienne qui le dit. Hein. Donc le pass sanitaire est obligatoire depuis vendredi passé là-bas chez eux. Et puis, donc les gens se sont dit, voilà, voilà un bon moyen de se faire de l'argent. Puisqu'il y a pas mal de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. On va essayer de... nous fabriquer ou bien d'aller pirater des passes sanitaires pour les revendre à des gens pour nous faire un peu d'argent. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça en France, c'est pareil. C'est grâce au tweet. C'est vrai, c'est un tweet d'un soignant à l'hôpital qui a beaucoup fait réagir d'ailleurs. Donc, raconte une femme de 56 ans entrée en réanimation Covid en France, aux urgences, a dû être placée sous oxygène. Il se trouve qu'elle et sa famille avaient tous, sans exception, un faux pass sanitaire acheté à 300 dollars l'unité. Oui, la famille a donc demandé comment se faire vacciner au plus vite, alors qu'à cause de leur faux pass, ils se sont déjà déclarés vaccinés auprès de l'assurance maladie. Voilà, c'est quoi. Donc, après avoir tenté l'expérience, il se trouve qu'il est très simple de se procurer un faux pass sanitaire. Il suffit, en fait, de trouver sur des réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, ce fameux... vrai, faux, ou bien faux, vrai passe sanitaire, c'est-à-dire un passe valide sans s'être fait vacciner, qui contourne les contrôles sans problème. Une fois les demandes envoyées, les réponses arrivent très rapidement. L'un d'entre eux a même appelé directement via Snapchat. Il a demandé le numéro de sécu, les coordonnées et surtout précisé que cela coûtait 300 euros. Donc c'est un business qui n'était pas... son activité principale, qu'il est maintenant, ouais, il s'agissait en fait d'un restaurateur qui s'est mis dans ce genre de situation, qui vendait, voilà. Donc, le soignant, c'est grâce à cette personne-là d'ailleurs qu'ils ont pu mettre la main sur ce réseau-là. Ça existe chez nous ici aussi. S'il vous plaît, allez-y vous faire vacciner, allez d'aller acheter, au lieu d'aller acheter des faux passes sanitaires sur le web. Voilà. Ouais, je vais parler un peu de l'ONU qui va se réunir bientôt là. La France va boycotter la conférence de suivi de Durban sur le racisme. Durban, c'est en Afrique du Sud. La France ne va pas participer à la conférence de suivi de la conférence de l'ONU contre le racisme, dite conférence de Durban. C'est prévu bientôt là en septembre, en raison des déclarations antisémites auxquelles elle a donné lieu à annoncer l'Élysée le vendredi. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, voilà. Il y a plusieurs pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël, le Canada et plusieurs pays européens ont déjà décidé de boycotter cette conférence de Durban, organisée par l'ONU le 22 septembre pour le 20e anniversaire de la conférence mondiale contre le racisme en 2000 en Durban, Afrique du Sud. Ça, c'est... voilà, c'est les politiciens qui prennent ce genre de décisions. Je ne sais pas, bon, mais combien de pays qui vont se déplacer? J'ai aucune idée. Alors, on va aller en musique, on va aller écouter qui maintenant? On va en musique et après je présente l'artiste.
Thank you.
George Michael, Roxanne. Ça fait partie des classiques. Hein. On va rester en Italie pour parler un peu de chaleur. Hein. C'est l'Italie qui est placée en alerte maximale à la chaleur. Après les températures records en Sicile, bien sûr, c'est. Ouf, c'est. Ce vendredi, là, aujourd'hui, là, le ministère de la Santé a placé 13 villes en alerte. Oui, en alerte 3. En alerte 3, en raison des températures élevées, c'est-à-dire le niveau maximal. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Oui, on a la chaleur chez nous ici aussi. Mais il n'y a pas. Je ne sais pas s'il y a combien de villes qui sont placées en alerte 3 ici. Bon, elles seront. 17 ce samedi. C'est-à-dire que la température va encore monter. Il y a 4 villes encore qui vont s'ajouter là-dessus. Le sud du pays est particulièrement touché. Sur les 500 incendies à maîtriser pour les pompiers ces dernières heures, 230 se trouvent en Sicile. En Sicile. C'est chaleur étouffante, humide, poisseuse, qui s'est abattue depuis plusieurs jours d'ailleurs sur le site de l'Italie. C'est vraiment. On vit la même chose ici aussi. Mais quand même, ouais, on n'a pas. À Montréal, on n'a pas 50 degrés là pour l'instant. Non, 45, 50, on n'a pas ça pour l'instant. Ça va encore. Oui, en particulier, le sud là-bas, en particulier en Calabre et puis en Sicile, où les incendies se multiplient ces dernières heures. Hier soir, dans la soirée, là, le village de Petralia Soprana, perché sur les hauteurs de Madoni, a été évacué en urgence, encerclé par les flammes qui avaient déjà dévorer toutes les campagnes aux alentours. Oui, c'est des centaines d'habitants ont quitté leur maison, une dizaine ont été transportés à l'hôpital après avoir été intoxiqués. L'enfer est en Sicile, comme disent les gens là-bas actuellement. Ces dernières heures, rien ne dément ce titre. Les journaux, tout le monde le dit, que 48,8 degrés Celsius. Ouais, c'est l'enfer, comme disent les gens là-bas actuellement. Et ce vendredi, aujourd'hui et tout le week-end, la protection civile régionale a maintenu au niveau d'alerte maximal le risque d'incendie et ceux liés aux fortes températures. Ouais, c'est pas beau, hein. J'aimerais pas être là. Pensez à toutes ces personnes qui vivent dans ces régions touchées, ici chez nous aussi, en Colombie-Britannique, au Manitoba, c'est pareil. Pour l'instant, dans les alentours de Montréal et autres, ou bien au Québec en général, je n'ai pas encore entendu parler de feux de forêt, d'incendie. Peut-être que je me trompe. Voilà, pour l'instant, c'est du Manitoba, de Colombie-Britannique, du côté de Vancouver là-bas, que ça tourne. Chaque fois que j'allume la télé, je tombe tout ça sur la jeune reporter de RDI qui est en train de nous montrer les flammes, les fumées, tout ça, les gens qui se font évacuer. Alors, l'anticyclone Lucifer arrivé des côtes africaines devrait ensuite remonter vers le centre puis le nord du pays. C'est ça, plus de 40 degrés sont attendus pour ce week-end du 15 août en Toscane, dans le Latium et Émilie-Romagne. Ça fait peur. Oui. Et en même temps aussi, on peut parler de beaucoup de choses. On ne parle pas de chaleur seulement. Parce que là, il y a l'effondrement aussi des glaciers qui se passent un peu partout dans le monde. Chez nous, ici au Canada, avant d'aller parler du glacier des Alpes, le grand glacier des Alpes qui inquiète les scientifiques en Suisse. Mais chez nous, ici au Canada, il y a l'effondrement d'une plateforme glaciaire. C'était la dernière plateforme glaciaire à avoir résisté aux conséquences du réchauffement climatique. Ce plateau de glace surnommé Milne, M-I-L-N-E, s'est finalement effondré en l'espace de 2 jours, hein, seulement, peu perdant ainsi plus de 40% de sa superficie. Cette mer de glace est située sur une île peu peuplée dans le grand nord du Canada. Bon, ce sont des chercheurs du Service canadien des glaces d'ailleurs qui ont capté par image satellite le processus d'effondrement de cette plateforme qui a commencé le 30 juillet jusqu'au 4 août dernier. Ces images, on peut y voir l'évolution vers l'affaissement du glacier d'ailleurs. Selon les scientifiques, ce sont des températures de l'air supérieures à la normale combinées à des vents du large qui ont mené à une rupture d'un large pan du plateau, ce qui était jusqu'à maintenant la plus grande plateforme glaciaire intacte au Canada. A diminué d'environ 80 km², c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Soit l'équivalent de plus de la superficie de l'île de Manhattan à New York. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup. Et en Suisse, c'est pareil. En Suisse, la fonte du plus grand glacier des Alpes qui inquiète les scientifiques. On reste dans le cadre de ce réchauffement climatique. C'est ça, chaleur, fonte des glaciers. Moi, je ne suis pas en colère, mais ça m'attriste, c'est tout. Le géant de 23 km de long, 11 milliards de tonnes de glace. Je dis bien 11 milliards, mais un géant au pied d'argile. Oui, en Suisse, le glacier d'Aletsch fond à vue d'œil comme chaque été. Si rien n'est fait pour inverser la tendance, il pourrait même disparaître complètement d'ici 2100. Complètement. D'ici là, il n'y en aura plus. Complètement. Plus de glaciers là. Sur place, les scientifiques d'ailleurs qui surveillent son évolution assistent impuissants à sa mort quasi programmée. Ils ne peuvent rien. Il faut environ 1h30 de marche depuis la station de Fischer-Alpes et puis en Valais Suisse, bien sûr, pour atteindre le glacier d'Aletsch. La balade est prisée de randonneurs et de touristes. Pour ceux qui veulent découvrir ça, c'est le moment de le faire jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. La plupart savent d'ailleurs que le spectacle qui s'offre à leurs yeux, oui, ne durera pas longtemps. Impressionnant, c'est peut-être la dernière fois où nous verrons le glacier de cet été, de cet état-là, disent les gens. En fait, et de fait, l'été a commencé son travail de sape, de sabotage. La glace fond à vue d'œil, on n'a même pas besoin d'appareils scientifiques pour voir, comme le constate Matthias Huss, le chercheur à l'université de Fribourg, en Suisse. On voit exactement cette masse-là. C'est très impressionnant parce qu'on a perdu presque 3 mètres de glace depuis 6 semaines. Ça se voit, on voit bouger. C'est une fonte déjà importante. Alors que l'été 2020 est pour le moment moins chaud, a été moins chaud que les années précédentes. Mais ce qui est vrai pour Alèche, l'est aussi pour les 4000 glaciers des Alpes. Je ne sais pas quoi dire encore, mais sincèrement, je ne sais pas si Maurice voulait ajouter quelque chose là-dessus. Non. Voilà, c'est environ un tiers des glaciers pourront être sauvés avec une protection du climat très forte et globale, mais on ne pourra certainement pas sauver les glaciers en Suisse. Voilà. Bon, ça, c'est... Les scientifiques sont totalement impuissants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent que constater les faits, c'est tout. Ils ne peuvent rien faire. Malgré toutes les technologies que toutes ces grandes nations ont, on n'y peut rien. C'est déjà trop tard. On a eu des avertissements de ces scientifiques, aussi des chercheurs, des gens qui nous disaient des choses. Mais ça n'a pas été le cas. On termine en beauté avec Tiken Diafakoli, avec la complicité de Soprano. Le monde est chaud.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois le manigance, le calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leur plus grosse recette. Y'a le sang d'innocents sur les mains.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Je respire la fumée, je suis à bout de souffle. Je vois les flèves faner, l'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, c'est foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leur paradis fiscal.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Tiken Diafakoli avec Soprano, le monde est chaud. Alors je dis merci à mon complice à la console, Maurice Bolduc. Merci Maurice. Et merci à notre invité Cynthia Sardou qui est venue nous parler de son livre Le Film. Allez courir à la librairie, allez vous chercher une copie, vous aimez découvrir un peu les dessous de Hollywood dans les milieux cinématographiques là-bas. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de votre fidélité. On vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Attention, vous verrez assez d'eau. Il fait très, 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 très chaud. Il fera très chaud cette fin de semaine. Merci à vous. Et puis, bon, on vous dit ciao.
Toujours été.